8h24 minutes en ce mardi matin. Je l'ai dit d'entrée de jeu en commençant l'émission. Je vous l'ai mentionné avant la toune de Garbage, Only Happy When It Rains. On suit d'assez près la saga d'Olivier Tisdale et surtout toute l'histoire de son père Jacques Tisdale et le traitement horrible qu'il a reçu dans le réseau de la santé. Je me disais qu'à un moment donné, Olivier allait débarquer en studio et on allait parler de bonnes nouvelles dans ce dossier-là. Il y a du nouveau, puis je vous l'ai dit, c'est pas beau. Fait que du nouveau, on aurait souhaité des bonnes nouvelles, c'en est des moins bonnes. Bien, tout d'abord, Olivier, bon mardi matin, merci d'être là.
Bon matin, ça me fait plaisir d'être ici.
Ta dernière ou plus récente publication au sujet du traitement de ton père dans le système de la santé circule énormément, a été vue... ça a dépassé le
million? On est rendu 1 643 000, en tout cas. Avant que je rentre en nombre, tout à l'heure, on était à 1 643 000 vues, 7 000 partages là, tout au plus de fait pour la publication qu'on a faite en fin de semaine.
Mets-nous dans le contexte, là, Olivier, s'il vous plaît, de cette publication-là et les nouvelles informations que vous aviez reçues.
Ben, écoute, c'est une personne du réseau qui travaille dans le réseau qui nous a contactés pour nous parler, parce que elle nous suit depuis le temps où on est sorti. Il faut quand même penser que ça fait plusieurs mois déjà qu'on est sur Facebook et que le dossier de mon père est devenu public. Cette personne a décidé de nous contacter parce qu'elle a vécu les soins pour mon père parce qu'elle travaillait sur cet étage-là, l'hôpital Enfant-Jésus, 4e étage. Et aussi, elle est tannée de voir que ça continue, puis que ça empire, puis que ça continue, qu'il y a des gens qui souffrent encore plus. Donc, elle a décidé de nous contacter, un, pour nous parler de ce qui se passait avec mon père lorsqu'il a été soigné à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, mais aussi pour nous parler de ce qui continue à faire parce qu'elle comprend que le combat, on le mène pour mon père, mais on le mène aussi pour les autres. On veut que les gens qui sont un peu sans aide actuellement, soit entendu, puis que quelqu'un, quelque part, comme le ministre de la Santé, finisse par dire « Oh là, je vous entends, puis c'est assez, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. »
Comment ça a été pour toi et ta famille d'apprendre ces détails-là?
C'est un coup de massue, je vous dirais, j'en disais avant de rentrer en onde, ça a été un des textes les plus durs à écrire. Il faut penser que, ici, on parle de mon père, on parle d'événements qui ont été posés sur mon père, des gestes qui ont été commis sur mon père. Donc, écrire ceci, écrire cela, ça se fait pas en une heure. Ça a pris une bonne fin de semaine pour respirer, d'en parler aussi avec ma mère, d'en parler avec la famille. C'est important parce que quand on sort une nouvelle comme ça, il faut comprendre que c'est tout le monde qui va la consulter. C'est tout le monde qui va voir ce que mon père a vécu.
Et là, la nouvelle, elle consiste à quoi? Tu l'as mis sur ton Facebook. Es-tu capable de nous l'expliquer? C'est sûr que je te pose la question. Es-tu capable? Parce que c'est quand même des...
Ben écoute, c'est sûr que c'est des gestes qui ont été... On peut appeler des gestes qui ont été commis sur mon père. Je parlais hier sur d'autres médias. Au début, on parlait un peu d'incompétence ou de mauvaise formation, peut-être par les soins qu'il aurait pu donner. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire qu'on parle plus de maltraitance. Maltraitance d'un humain. On donne un exemple. Mon père tombe par terre. On le laisse là plusieurs heures en disant qu'il va arrêter de chialer. On lui donne pas d'eau parce que, supposément, à cause qu'on a envoyé une mise en demeure pour que les soins soient améliorés. Il faut comprendre que quand on envoie une mise en demeure pour que les soins s'améliorent, c'est pas parce que ça va bien. On l'envoie parce que ça va mal. Et je pense pas qu'après, la personne qui a besoin de ces soins-là devrait subir le fait que la famille décide. Et la décision, je la prends personnellement. C'est moi qui ai décidé avec l'avocat qui nous représente de dire, là, ça peut pas continuer. On peut pas continuer ce genre de qualité de soins-là. Pas au Québec. On n'est pas dans le fond de la brousse. On n'est pas abandonné quelque part. On est au Québec avec des outils, avec
parce
des
gens. Parce que cette mise en demeure-là, la première est faite pendant que ton père est soigné
absolument,
plus jeunement à l'hôpital.
10 jours avant qu'il décède, là, on avait envoyé la mise en demeure pour que les soins soient améliorés.
Et c'est là que ça s'est dégradé encore plus.
Exactement.
Olivier, on l'a dit, énormément de réactions là, depuis le début que tu as commencé à en parler sur les réseaux sociaux de la situation de ton père et les histoires de ton père dans le système de la santé. Tu parlais d'au-dessus d'un million de visionnements pour la plus récente publication. Donc, énormément de réactions de monsieur, madame, tout le monde, de gens dans le domaine de la santé. Mais comment? On sent comment qu'on n'a pas de réaction plus haut de nos politiciens, politiciennes?
Vous voyez, ça, c'est la pire déception, je pense, qu'on peut avoir dans ce dossier-là. Parce que depuis le début de ce dossier-là, on se bat pour avoir des réponses du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, des élus. Je pense que quand on est élu, on ne peut pas regarder ce dossier-là du coin de l'œil en le tassant en dessous de la table. Il faut que ça vienne nous chercher à quelque part. Il faut que ça vienne nous dire qu'il y a un problème au Québec. Et ce n'est pas juste pour Jacques Tisdale, que je vous disais en entrée. C'est pour tout le monde. Et ça continue. C'est ce que la personne qui nous a contactés nous dit. Ça continue. Puis si vous regardez... Sur le post que j'ai fait, j'ai mis des photos, je vous le disais tantôt. Ces photos-là sont les moins pires des pires. Je peux vous citer un exemple. J'allais voir mon père des fois, il saignait beaucoup des jambes, saignait beaucoup des fesses. On le tassait à gauche, puis on mettait un oreiller à droite pour cacher les flaques de sang, sans faire son lit. Vous voyez, quand on voit ça, moi j'ai 45 ans aujourd'hui, mon père avait 74 ans, ça vient nous chercher par en dedans, parce que ça reste un être humain, puis ça reste mon père avant tout, que j'aime, puis qui a été mon rock, mon partner toute ma vie. Mm-hmm. Puis là, vous voyez ça, on le prend, on le met à gauche, on met un oreiller à droite pour cacher le sang. C'est ordinaire. C'est pas ce qu'on mérite au Québec comme soins. Puis je pense qu'aujourd'hui, puis c'est encore un message qu'on lance au ministre de la Santé, je pense qu'ils se doivent de l'entendre. À un moment ou à un autre, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit les députés, que ce soit un simple élu, je pense que quelqu'un va devoir réagir puis nous expliquer ce qui va se passer dans les années. Parce qu'il faut vous penser que vous, moi, tous ceux qui sont ici dans le studio, on va vieillir. On va passer par le système de santé un jour, puis je pense que c'est pas ce qu'on veut comme soins qu'on va avoir plus tard.
Est-ce qu'on... Quand on porte une cause comme celle-là, puis là, ben, on parle de ton père, ça te touche personnellement toi, puis c'est l'histoire de ton père, c'est l'histoire de votre famille. On doit recevoir des messages d'autres Québécois qui disent « Hey, moi, ce que tu racontes là, je l'ai vécu. »
On a, écoutez, depuis, là, je vous dis depuis dimanche, j'ai pas eu le temps de tous les lire, on est rendu à 2200 messages ce matin.
Aïe, aïe, aïe.
J'ai lu des histoires qui sont, je vous dirais, plus surprenantes l'une que l'autre. Des gens qui ont vécu avec soit que leur père, leur mère, même leurs enfants. J'ai une madame qui m'écrivait encore ce matin. Mon enfant est passé par un étage où il était complètement abandonné, un enfant de 10 ans. Vous savez que ça vient nous chercher, nous autres aussi, parce qu'on se dit, oui, on n'est pas seul. Mais au travers de ça, je pense que les gens qui ont vécu ça, ça vient unir la force qu'on a actuellement pour dire « faut qu'on continue de dénoncer ». Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va finir par mettre son poing sur la table et dire « là, on arrête, on refait les bases ». Je pense qu'on doit revoir la base des soins au Québec.
Dans les 2200, j'imagine que ça provient de partout au Québec?
Il y en a de partout. J'en ai de Montréal, Gatineau, l'Abitibi, Gaspésie. Encore hier soir, il y a un monsieur de la Gaspésie qui m'expliquait ce que son père avait vécu à l'hôpital aussi. Un peu dans le même principe que mon père. On l'a abandonné parce qu'on dirait que c'est un fléau qui va beaucoup toucher plus les personnes âgées. J'en conviens, mais par contre, on en voit avec des plus jeunes aussi.
Donc, c'est un fléau partout au Québec. Alors, ça prend vraiment une intervention du ministère de la Santé ou de Santé Québec, là, on ne sait plus qui gère santé, là, malheureusement, au Québec. Et ça prend de la pression mise par les partis d'opposition. À cet effet-là, tu as fait des approches, mais malheureusement, tu n'as pas encore l'oreille attentive.
On n'a pas encore trouvé le bon, mais j'ai confiance. Puis comme je vous dis toujours, on est tenace, on est persévérant. S'ils pensent qu'on va s'éteindre parce qu'on veut nous étirer au maximum, l'élastique est assez long. Pour moi, je suis capable de l'étirer encore bien en masse. Puis je vais continuer. On va continuer à le dénoncer parce que c'est important que les gens puissent avoir les bons soins. Puis on ne souhaite pas ça à personne de vivre ce qu'on a vécu, nous autres, dans la dernière année. Parce qu'il faut toujours comprendre une chose, on est dans ce combat-là depuis bientôt un an, mais le deuil ne se fait pas pendant ce temps-là. T'sais, on continue de se battre, mais tant que le combat ne sera pas terminé, ce deuil-là ne sera pas terminé non plus.
Olivier, j'aimerais qu'on termine en jasant des réactions que vous recevez par rapport aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Dans la dernière publication, bon, c'est un témoignage d'une infirmière.
Oui.
En gros, est-ce que ça va plus dans la direction de « faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, on n'est pas comme ça, comme les gens dans ces histoires-là » ou, au contraire, on dénonce des situations autres? Ou c'est-tu un grand mélange de tout ça?
Je vais vous dire, je suis hyper impressionné de ce que je vois comme commentaire des infirmiers, des infirmières, des préposés, même de médecins qui ont écrit. Ça va dans un sens, puis c'est très, très, très précis. Ça se passe. Les gens sont tannés, les infirmiers, les infirmières sont tannés de voir ça parce que c'est pas juste des faits isolés, mais ça se passe partout. Puis ils n'ont pas les moyens de corriger ces situations-là. Puis vous dites des messages d'infirmiers et d'infirmières, c'est ce qui m'a surpris le plus. J'en ai des centaines actuellement, des gens du réseau qui travaillent là, qui sont tristes, qui sont déçus, qui nous disent on a mal à notre profession, puis on a mal à notre passion d'être infirmier ou d'infirmière.
Quand on revient à l'histoire de base, là, ou du moins de cette nouvelle étape-là de l'histoire, là, on sent qu'il y aurait un désir de vengeance envers votre père puis votre famille, de dire ils ont envoyé une mise en demeure, ben il va rester là. Puis fait que ça vient de qui? Ça viendrait de qui, ça, exactement, ce désir de vengeance-là?
Ce qu'on nous dit, c'est que ça vient des chefs d'unité, surtout. Okay. C'est sûr qu'eux autres le prennent mal, le fait qu'on a envoyé une mise en demeure, mais comme je vous disais tantôt, si on fait bien notre travail, si on fait bien les choses, on ne vivra pas des mises en demeure puis on n'aura pas ce genre de contexte-là à vivre par la suite.
Olivier, chaque fois que tu passes en ondes, il y a plein de gens qui nous écrivent pour nous dire « Hey, il devrait aller en politique, lui, pour changer les choses. Ton père a été en politique, ouais. C'est quelque chose qui t'intéresse? »
Pas tout de suite, parce que...
Ah, c'est une bonne réponse de politicien, je trouve. Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Ben, écoute, j'ai 45 ans, je suis encore jeune. Je t'avouerais que je suis découragé de ce qu'on voit en politique actuellement.
Vraiment?
Peut-être qu'un jour, effectivement, j'aurais peut-être l'idée de le faire, mais toujours dans le même cadre que mon père a fait de sa politique, c'est d'être proche des gens puis de s'occuper des gens. Je pense qu'au Québec, ça se fait plus. Puis mon père a toujours été un politicien qui était sur le terrain, que ça soit hostile ou positif, il était dans le monde, puis il n'avait pas peur d'aller rencontrer les gens. Puis je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les politiciens fassent la même chose avec notre dossier puis le dossier des autres qui continuent à le subir, de sortir puis de ne pas avoir peur de se mouiller dans ce genre de dossier-là.
Olivier Tisdale, merci d'être passé nous voir pour cette mise à jour de la saga ou cette saga-là, ton histoire, l'histoire de ton père aussi. Tu le sais, tu es toujours le bienvenu. Tu passes quand tu veux, quand tu as du nouveau, en souhaitant que bientôt... Peut-être la prochaine fois, c'est des meilleures nouvelles.
On le souhaite. Écoute, on le souhaite, puis on souhaite que ça aille mieux dans les prochaines semaines, mais on continue de se battre, puis on lâchera pas.
Merci, Olivier.
Merci à vous autres. On s'arrête deux.